partout au Québec. Partout au Québec. Les sujets de l'heure. Éditorial. Entrevue. Vos commentaires. Au réseau Cogeco, vous écoutez Mon Grain PM.
Bonjour tout le monde, bonne journée, nous sommes le 3 août 2020. Les vacances de construction, c'est terminé. Et pour bien des gens, c'est le retour au travail. Est-ce que ça a été difficile? Est-ce que vous avez passé de belles vacances? Que les conditions modifiées de la vie en société ont-elles fait en sorte que, justement, vous avez passé des vacances différentes? Vos projets initiaux ont été, évidemment, contrecarrés. Il n'est pas question d'aller à l'extérieur. Les frontières canado-américaines sont fermées. Vous avez probablement eu à faire des plans autres et rapidement. Mais comment ça s'est soldé, tout ça? Parce que des fois, tu te pars puis tu es presque déçu de ne pas aller à la place où tu voulais aller initialement. Mais comment ça s'est passé une fois que, évidemment, on est devant l'évidence? On se dit peut-être, bon, ben, hey, dans le fond, sais-tu, ça n'a pas été si mal. Alors, on va vous consulter là-dessus au cours de l'émission, bien sûr. Mais d'abord et avant tout, je pense qu'il faut parler de l'Organisation mondiale de la santé qui a fait une déclaration ce matin, une déclaration assez importante dont nous avons, je pense, un extrait. Nous n'avons pas l'extrait, non? Alors, de toute façon, c'était une proposition anglaise. Alors, je vais vous traduire l'essentiel de ce que l'Organisation mondiale de la santé a dit. Il ne faut pas s'attendre à des miracles. Il va falloir apprendre à vivre avec cette pandémie, avec ce coronavirus. Est-ce que, cependant, la situation sera aussi importante? Elle va perdurer, mais la façon de contrôler est mieux connue qu'elle l'était initialement lorsque ça nous a tous surpris et pris à contre-pied. Et là, on dit qu'on sera peut-être capable de, évidemment, contrôler davantage. En attente d'un vaccin, viendra-t-il? Si ce vaccin existe, est-ce qu'il y aura une durée dans l'immunité qui est importante? C'est des questions qu'on va se poser à l'instant et ça ne sera pas long. Mais je veux d'abord souligner quelque chose qui m'a attristé. Je pense que dans la liberté d'expression, dans la façon de vouloir dire les choses, il y a la possibilité que des gens puissent prendre la place publique sans subir d'insultes. Il me semble que c'est la moindre des choses dans notre société. Il y a une jeune fille qui a témoigné dans le Journal de Montréal. Elle était convaincue qu'elle allait mourir. Elle a encore des séquelles de la maladie. Alors, nous avons tenté de la rejoindre pour avoir son témoignage, non pas écrit, mais parlé, pour qu'elle échange avec nous. Et imaginez-vous qu'elle a refusé. Elle n'a pas refusé parce qu'elle ne voulait pas parler. Elle a refusé parce que depuis qu'elle a publié ce témoignage, qu'elle a encore des séquelles, qu'elle a été malade de longues semaines et qu'elle a encore de la difficulté, elle a reçu un barrage d'insultes à son endroit sur les réseaux sociaux. On lui dit de se taire, que c'est une faiblarde, elle n'avait pas d'affaire à témoigner de ça. Un barrage d'insultes. Je ne peux pas personnellement comprendre qu'on n'accepte pas le témoignage d'une personne qui est passée aux portes de la mort et qui veut simplement témoigner de son expérience pour que ceux qui voudront bien prendre son message le prennent. Les autres, vous ne voulez pas le prendre, prenez-les pas. Mais ce n'est pas question de monter aux barricades du complot ou du déni pour dire « cette femme-là, c'est une moins que rien ». C'est une jeune femme de 28 ans. Elle a autant le droit de s'exprimer que quiconque. Et je ne vois pas en quoi votre négativisme à son endroit peut aider quelque cause que ce soit, même pas la vôtre. Alors, je trouve ça un peu triste. On va, si vous le voulez bien, nous attarder à quelque chose de plus positif parce que je vois des reconfinements en Australie un peu partout. Je vois des reprises de la pandémie un peu partout, en tout cas de la contamination. Le docteur Richard Marchand est avec nous. Il est microbiologiste et infectiologue à l'Institut de cardiologie de Montréal. Bonjour, docteur Marchand.
Bonjour, M. Mongrain.
Dites-moi, qu'est-ce qui arrive avec cette affaire de déclaration de l'OMS? On le savait, est-ce qu'on a attendu pour nous le dire? Est-ce qu'il fallait vraiment mettre la barre très haute pour que l'on comprenne qu'il faille prendre des mesures de distanciation, de masque, etc., etc.? Mais là, on nous dit, Malgré les recherches scientifiques pour l'obtention d'un vaccin, on ne connaît même pas la qualité de ce que serait ce vaccin éventuellement, non pas dans sa capacité de ne pas nous donner de l'immunité, mais pour sa durée. Et là, on continue en se disant, il va falloir apprendre à vivre avec. Apprendre à vivre avec un virus qui peut être mortel, c'est pas une évidence pour personne.
Non, mais remplacer coronavirus par virus de la grippe, puis c'est exactement la même chose. Or, le virus de la grippe est un virus mortel. Contrairement au coronavirus, il ne tue pas juste les personnes âgées, il tue aussi des enfants. Par exemple, au mois de février, juste aux États-Unis, avant que le coronavirus commence, il y avait 386 enfants de moins de 10 ans qui étaient décédés de la grippe. Donc, tout ce qu'on dit sur la grippe est transposable au coronavirus au complet et on apprend à vivre avec. Donc, on va vivre avec ce virus-là, comme on vit avec, par exemple, un nouveau virus de la grippe pendant un an et demi, le temps qu'on puisse faire des vaccins appropriés, le temps qu'on puisse apprendre à bien traiter la grippe pour diminuer le risque de mortalité. Et on va le faire pour ce virus-là, comme on a fait avec les autres virus, y compris celui de la grippe. La seule différence, c'est que ce virus-là peut infecter beaucoup, beaucoup plus de gens, beaucoup, beaucoup plus rapidement que la grippe. Si vous vous ramassez avec, je ne sais pas moi, 25 000 personnes tout d'un coup malades et que vous avez 22 000 lits à hospitaliser, bien, il y en a 3 000 qu'on ne peut pas traiter et ça tourne mal dans ce temps-là. C'est la seule chose qu'il faut faire, c'est ralentir sa distribution pour vous finir par passer à travers sur un an et demi, peut-être deux, comme on fait avec les autres.
Est-ce que vous embarquez dans l'argumentaire de ceux qui disent que ça n'existe pas le coronavirus, c'est une grippe, puis c'est pas pire que la grippe tue autant de monde que. Autrement dit, ce que vous me dites donnerait-il raison à des gens qui sont contre le principe de confinement, de masque, de tousser, de distanciation sociale, et de dire qu'ils sont que c'est un complot? On n'est pas là, là.
On n'est absolument pas là. La différence, comme je vous ai dit, entre la grippe et le coronavirus, c'est qu'il peut être trois à quatre fois plus rapidement infectieux que les autres, se disséminer à toute vitesse. Et il touche particulièrement les personnes âgées de façon plus dure que la grippe chez les personnes âgées, même si au total, la mortalité est légèrement supérieure à celle de la grippe parce qu'il ne touche pas les plus jeunes en général, surtout les jeunes enfants. Attends. Donc, vous voyez, les virus ont toutes leurs particularités. Par exemple, il y a quelques minutes, vous parliez des séquelles du coronavirus. Oui. Ben, prenez la mononucléose. Il y a beaucoup, beaucoup de gens, quand ils sont ados, qui font la mononucléose, par exemple, et qui ont des séquelles. Ils restent fatigués et amorphes pendant des semaines, voire des mois. On appelle ça un syndrome post-mononucléosique. Mais on pourrait appeler ça tout simplement un syndrome post-viral. Et il y a beaucoup de gens qui font l'équivalent avec le coronavirus pendant un mois, deux mois, trois mois, quatre mois, cinq mois, comme on fait pour la mono, par exemple. On va avoir cette sensation de fatigue, ces douleurs articulaires, ces malaises. Ce virus-là fait ce que d'autres virus font aussi. On n'appelle pas ça syndrome post-mononucléosique parce que ça serait plutôt post-coronavirus, mais c'est essentiellement le même genre de dérèglement qui survient après une infection virale avec ce virus-là, comme pour les autres.
Alors, si c'est comme pour les autres, pourquoi on réagit pas comme pour les autres? C'est-à-dire que le masque, la pandémie, le confinement, etc., etc., les mesures, à vous écouter, et je veux bien vous croire, et je pense que vous dites vrai, mais c'est pas ça que je questionne, mais pour les gens qui ne connaissent pas ça, des mesures extrêmes à quelque chose qu'après ça, dans le discours, on dit, ben écoutez, oui, ça existe, un autre virus parmi d'autres. Il est plus, il atteint plus facilement les gens, il contamine plus de gens, mais les résultats sont sensiblement ceux de la grippe annuelle. Alors,
c'est la vitesse à laquelle ça peut aller qui fait la différence. C'est à peu près ça le gros facteur. Une personne qui a la grippe va transmettre en général la grippe à 1,2 à 1,8 autres personnes. Donc, en général, on va le donner à une personne, rarement deux. Ici, ce virus-là, on peut le donner à trois, à quatre et à même cinq personnes avant même qu'on s'en rende compte.
Ça veut dire que de là, non pas la gravité objective pour les individus d'être malades, mais plutôt la gravité, j'allais dire, pandémique de la rapidité avec laquelle les gens sont contaminés. Et donc, que les systèmes ne pourraient pas résister à recevoir autant de cas.
Exactement. Il n'y a aucun système de santé qui pourrait recevoir autant de cas, si c'est, par exemple, autant de cas de grippe ou autant de cas de quelques maladies respiratoires que ce soit. Par exemple, si vous avez 200 patients qui se présentent à vous, puis vous avez juste 150 prises d'oxygène, qu'est-ce que vous faites avec les 50 derniers? Hein? C'est ça l'astuce. Ce virus-là a la capacité de dépasser à peu près toutes les capacités techniques de nos systèmes de santé. Donc, c'est ça qui fait la différence.
Okay. Alors, on a été surpris, on a été pris à contre-pied mondialement, à grandeur de la planète, sur la capacité de traiter, alors que l'on sait maintenant comment traiter l'influenza, la grippe ordinaire, la mononucléose ou autres virus que l'on a pu connaître. On n'a pas encore de vaccin. Les scientifiques sont à contre-pied dans cette affaire-là. Puis là, on fouille, puis on met toutes les énergies. Puis pendant ce temps-là, notre économie tombe à terre.
C'est un peu le problème qu'il y avait. Mais il y a une petite différence aussi. C'est quand il a commencé, on le comparait à son cousin, qui est le SARS, qui avait lieu en 93, qui, lui, était plus mortel. Un peu moins infectieux, mais plus mortel. Comme je vous ai dit, il y a deux aspects, là. La capacité d'infecter les autres et la capacité d'être virulent. Ce virus-là est un peu plus virulent et correspond à nos mauvaises années de grippe, là. Il y a des années, par exemple, au Québec, on a eu presque 2000 morts de grippe dans les années 70, là, 76 entre autres, l'année de l'Expo, et ça nous donnait une mortalité de 0,5%. Bien, ce virus-là a à peu près la même mortalité à l'échelle mondiale, 0,5%, là, que nos pires virus qu'on a eus, à l'exception peut-être de la grippe espagnole. Par contre, sa vitesse de propagation dans la population... Puis vous le voyez, un seul party d'un soir peut infecter toute une horde de jeunes, là.
Oui, oui.
Hein? C'est ça, cette capacité d'infecter-là qui rend ce virus-là dangereux pour notre société. Parce que prenons un exemple d'une société qui accepte plus la discipline. Prenons nos amis suédois, là, qui ne se sont pas confinés, mais qui ont respecté quand même assez solidement les directives de santé publique. Bien, ils ont passé à travers, et nous, on va faire la même chose. C'est-à-dire que on va prendre l'habitude de porter des masques, comme les Coréens, comme les Japonais, comme tout le monde. On va prendre certaines habitudes qui vont faire qu'on va diminuer la possibilité de transmission, mais habitudes que nous n'avions pas. Hein, prenez l'exemple de porter un masque. Il y en a encore qui s'y opposent. Les endroits où on s'y oppose, là, vous pouvez le voir aux États-Unis, ce que ça donne.
Ben oui, c'est le pire résultat pandémique mondial à ce moment-ci.
Oui, oui. La capacité de s'autodiscipliner est un élément important. Et ça, il y a des notions culturelles là-dedans, il y a des notions politiques, il y a tout ce que vous voulez, mais c'est pas tout le monde toutes les sociétés qui ont ces mêmes capacités d'autodiscipline-là et qui peuvent réussir juste par l'autodiscipline à bloquer la vitesse de propagation de certains virus.
À ce moment-là, j'ai une autre question pour vous. Et c'est pas une question piège, mais si ça se propage rapidement, il serait important d'avoir des résultats de tests très rapidement.
Ah ben là, c'est pas une question piège, c'est une réalité. Mais je vous rappelle qu'il y a 3 à 4 mois, on n'avait même aucun test pour le virus. Et tous nos tests historiques qui étaient développés pour les différents coronavirus ne faisaient pas la différence entre les sortes de coronavirus. Et comme le coronavirus commun est responsable à peu près 5 % des infections respiratoires sur une base annuelle depuis 60 ans qu'on le suit, là, comme tel. Mais la plupart d'entre nous, on a tous fait des infections en coronavirus commun dans notre vie. Un petit morveux de 2 ans, bien, c'est en général ou c'est fréquemment un coronavirus commun. Ce qui fait que nos tests initiaux n'étaient pas capables de différencier ce nouveau coronavirus-là des virus qui couraient normalement dans notre population. Il fallait mettre ça au point. En fait, on a développé l'avion des tests, si vous voulez, en même temps qu'on vole.
Oui, c'est ça. Mais là, étant donné qu'on vole, est-ce qu'on sait comment on va atterrir? Quand est-ce qu'on va se poser? Parce que la réalité fait en sorte qu'on a des tests. Là, on est monté, semble-t-il, à 16 000 tests par jour, je veux bien. Mais ça prend 8 heures pour avoir un rendez-vous. Après ça, il fait le test. Après ça, c'est entre 48 et jusqu'à 5 jours pour avoir des résultats. Nous ne sommes pas capables, comme citoyens, de prendre 8 heures de notre temps, une semaine de notre temps au travail, être confiné, les enfants, la même chose, les garder, pas les garder, les envoyer à l'école, pas les envoyer à l'école, à garder. Vous comprenez là, que ce que je veux dire, c'est que si on n'est pas instrumenté pour faire face à ça. Il n'y a pas juste nous qui sommes responsables de nos comportements. Malgré nos comportements, il pourrait y avoir des problèmes de société importants et pandémiques également.
Vous avez tout à fait raison à cet égard-là. Et on n'est pas les seuls qui ont rencontré ce problème-là. Les Coréens, les Chinois, les Allemands, l'Europe en général. Et c'est pour ça qu'on a changé notre fusil d'épaule dans ces pays-là. Hein, au lieu de centraliser autour des établissements de soins les tests, on est décentralisé au maximum. Hein, en France, vous pouvez vous faire tester pour le coronavirus dans une pharmacie.
On n'est pas là,
nous autres. Vous pouvez y aller
encore
dans le bureau du docteur. Mais ça, c'est un choix politique. Les tests au Québec sont contrôlés par l'État. C'est le ministère de la Santé. Il veut garder ce contrôle-là à l'intérieur du réseau de la santé. Et on n'a pas mis en place, et actuellement, moi, je ne vois pas d'effort pour décentraliser les tests. Vous voyez, si vous faites 10 tests par jour, mais vous mettez ça dans 20 000 bureaux de médecins, les pharmacies, les cliniques privées, le podiatre, le physiothérapeute, puis tout ça, là, tout le monde, ben, 20, si on faisait que 10 tests par jour, puis vous avez 20 000, vous en faites 200 000. Vous voyez, les autres pays ailleurs ont répondu par le développement de tests qu'on appelle en point of care, là, c'est-à-dire à l'endroit où on peut le faire le plus rapidement possible et en desservant la population. Ce que ça veut dire, c'est que il y a un apprentissage à faire au niveau de notre société.
Il y a un décloisonnement. Il faut arrêter de travailler en silo. Il faut arrêter de faire un certain corporatisme pour se donner l'importance de l'avoir. Il faut avoir des tests. Puis si je suis capable, moi, de rentrer un bâton dans le nez de quelqu'un, là, je devrais envoyer ça dans une enveloppe à quelque part. Puis voyons donc, on pourrait s'auto-tester à la limite.
Ah ben, ça pourrait aller jusque-là à la limite. On sait que dans l'auto-testing...
On le fait pour les problèmes de polypes, là, puis les problèmes de sang. Ils vous donnent un petit sac avec une seringue et un bâton, puis vous ramassez un petit peu de vos selles, vous mettez ça dans le sac, puis vous envoyez ça au labo.
Je pourrais vous donner un autre exemple. Il y a une petite trousse qui coûte 7 $ ou à peu près, dans laquelle on fait tout simplement cracher. On crache de la salive dedans et ça fait la même chose au lieu de vous faire planter un bâton dans le nez.
Ben voyons donc.
Oui, ça existe. Mais c'est un choix, encore une fois, organisationnel de maintenir certaines structures opérantes. Mais le temps va apprendre à l'État. Au début, moi, je travaille dans un laboratoire à l'Institut de cardio aussi. Là. Je suis responsable d'un laboratoire. Je peux vous dire qu'au tout début, au mois de janvier, le gouvernement estimait qu'un seul labo, c'était suffisant. Un laboratoire de référence à 400-500 tests par jour était prévu comme suffisant pour l'ensemble de la province. Les microbiologistes avaient fait beaucoup de pression pour que ça se distribue dans la société. Ils ont accepté les serveurs OptiLab, donc 11 laboratoires, 12 laboratoires de plus. C'était pas assez. Par la suite, ils vont accepter les petits hôpitaux. On vous rappelle les petits hôpitaux, là, Fleury, Jean Talon. Tout ce monde-là était fermé. Les labos se tournaient les pouces pendant que les gros centres ne fournissaient pas. Là, on a accepté de décentraliser dans les petits hôpitaux les appareillages et le développement, ce qui a amené la capacité qu'on a maintenant aux alentours de 17-18 000 tests. Et encore, vous constatez qu'à l'échelle de la province, comme on le constate dans les autres pays, ben c'est pas assez, il faut décentraliser davantage.
Docteur Richard Marchand,
c'est des choix organisationnels.
Merci beaucoup d'avoir levé le voile. On s'en allait pas là dans mon intention d'entrevue, je m'en allais pas là. Mais vous m'avez vraiment, vraiment fait des révélations intéressantes qui n'étaient véritablement pas à la connaissance du public. Je vous remercie beaucoup.
Bienvenue. Mais pour ce qui est de la jeune dame qui s'est fait insulter, c'est dommage parce que c'est vraiment, ça existe vraiment, les syndromes post-viraux, comme celui qu'on voit dans la mononucléose avec le coronavirus. On le voit avec le coronavirus. Malheureusement, c'est heureusement que c'est pas tout le monde. C'est peut-être 10 à 15 % de ceux qui font ces infections-là, quand ils les font de façon sévère, qui vont présenter ça. Mais c'est à peu près le même modèle que celui qu'on a dans la mononucléose.
Dr. Richard Marchand, merci énormément. Microbiologiste et infectiologue à l'Institut de cardiologie de Montréal.